Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Tout gentilhomme se doit de cultiver son jardin, comme Elise Moon. Amateur de botanique, de bossa nova comme des œuvres de Wagner et de retraite dans les abbayes. Elise Moon que la noirceur du monde a transformé en humoriste. Humoriste adorant surfer sur l'absurde, la folie, les névroses, toutes ces failles et ces boursouflures qui racontent la comédie humaine. Le 13 juillet prochain sort en salle le quatrième volet, très attendu, des aventures du cancre le plus célèbre de France, du cobu président. Et c'est Elise Moon qui a tout orchestré en réalisant cette comédie familiale survitaminée, dans laquelle il joue d'ailleurs. Alors, bien sûr, il était temps de se retrouver pour parler de tout ce qui fait le sel de la vie et puis de ce métier. Bonjour, bienvenue Elise Moon.
On est toujours bien soigné avec vous ma chère. Merci pour ce début, pour l'instant j'ai rien à dire.
Bon, je vous aime Elise Moon.
Moi aussi.
Alors Elise Moon, c'est un constat, hein. La société, elle était infiniment moins anxiogène du temps de Coluche. En fait, être humoriste en 2022, c'est un job délicat.
Oui, mais même être, pas simplement humoriste, mais être citoyen, être humain dans cette période. Alors, on ne peut plus rire de tout. Visiblement, parce que souvent on me pose la question, moi je dis oui, mais en fait c'est faux, on ne peut pas rire de tout. Vous voyez, je reviens de Marrakech,
oui.
Du Marrakech du rire.
Oui. Organisé par Jamel.
Organisé par notre ami Jamel, qu'on adore, qu'on aime.
Bien sûr.
Le public est exigeant, il a raison, comme tous les publics, mais il est un peu puritain. C'est normal, parce que la religion a une place très importante dans sa société. Mmh. On ne parle pas de sexe, ça peut choquer.
Alors, vous prévient de tout ça avant d'entrer
en
scène ?
Non, mais on le sait, on le sent. Donc, il faut faire attention. On revient en France, il ne faut pas poster des trucs sur les réseaux sociaux de peur de, que votre carrière s'écroule pour un mot dit plus haut que l'autre. Maintenant, dans les sociétés, quand un producteur de cinéma reçoit une comédienne, il faut qu'il le fasse porte ouverte. Enfin, je pourrais vous donner des milliers d'exemples. Alors, ok, c'est super parce que les femmes défendent leurs droits et elles ont raison. On entend leur voix. Mais il y a des exagérations et on en arrive, en effet, à oublier que dans la vie, il y a du second degré, il y a de l'autodérision, que les Juifs ont droit de se moquer des Arabes et vice-versa. Et pas simplement, c'est pas parce que moi je suis blanc que je peux me moquer des Blancs. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu compliqué.
Alors,
vous savez tout ça.
Je vous ai un jour entendu déclarer, même si le métier d'humoriste est un métier de bouffon professionnel, on n'est pas là pour raconter des choses futiles.
Non.
Mais encore faut-il qu'on vous laisse le 17e degré.
Oui, c'est ça. Et puis aussi, il faut un minimum mettre du fond dans ce qu'on dit. Et surtout là, en ce moment, dans notre société, il faut... Parce que c'est une société très binaire, enfin je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas c'est une pensée binaire. Noir, blanc, méchant, gentil, homophobe, pas homophobe. Enfin, en fait, on a l'impression qu'il n'y a aucune nuance dans cette société, alors qu'il y en a tellement dans la vie.
Alors, aux humoristes de se balader dans les nuances.
Ouais.
Elise Moon, depuis 20 ans, 95% des humoristes ont versé dans le stand-up, qui consiste donc à faire de l'humour en commentant sa vie quotidienne. Vous ne faites pas de stand-up, puisque vous avez créé des personnages qui sont à peine la caricature de ce qu'en fait cette société peut produire parfois de pire. Mais pourquoi ce goût du travestissement ?
Honnêtement, je sais pas. Je trouve ça hyper impudique, mais de mon point de vue, hein, de raconter sa vie et de penser que ça peut intéresser des milliers de gens. Donc, par pudeur, il y en a qui le font très bien. Vous voyez, je vous parle du Marrakech du rire. Paul Mirabel, par exemple, a fait un succès et c'est vrai qu'il fait exactement ce que vous dites. Il parle de lui d'une manière drôle, évidemment. Mais moi, j'ai beaucoup de mal. J'ai l'impression que ma vie est moins intéressante que celle
de
mes personnages.
De façon drôle.
Oui. Je trouve ça... Puis on s'attache plus à des personnages qu'à des vannes. C'est ce que je pense. Mais l'autre jour, sur scène... Enfin, pardon de vous parler de ça, parce que j'en reviens. J'y étais il y a deux jours.
Mais dites-nous.
Sur scène, ce qui a le mieux fonctionné, j'ai senti, c'est quand je m'adressais au public marrakchi, de Marrakech. Parce que on a un contact direct avec eux, Alors que quand on fait un personnage, il y a une sorte de mur entre vous et le personnage.
Donc
mais
vous allez peut-être revoir
peut-être,
vos positions.
Peut-être, oui, on verra, oui, on verra par la suite.
Parce
oui.
que jusqu'à présent, vous jouez énormément avec ce physique qui est facile à grimer. Vous l'aimez dans la vie, votre physique, Elise Moon?
Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je pourrais vous plaire si vous étiez seule?
Oui.
Ah, c'est bien, je la rends un peu mal à l'aise.
Mais est-ce qu'il vous ressemble, cool. ce physique?
Oui, oui, il me ressemble. Je ne suis pas en pâmoison devant moi.
Sur scène, Elise Moon, vous avez toujours mis un point d'honneur à faire rire avec les sujets auxquels les autres humoristes ne touchaient pas. Et il y va ainsi dans le spectacle que vous jouez en tournée, d'ailleurs jusqu'à la fin de l'année, Elise Moon et ses monstres. Vous incarnez aussi bien le raciste qui va sur Tinder que l'apprenti djihadiste français qui raconte comment il s'entraîne, puis qui appelle sa mère pour savoir comment il peut s'enfuir de Bagdad. Pour les monstres, l'époque, franchement, elle laisse l'embarras du choix.
C'est génial. Ah ouais, merci. Ah non, mais là, il y a des monstres partout. Enfin, c'est fou. Enfin, c'est pas des monstres qui viennent d'une autre planète. Hein. C'est ceux qui sont là autour de nous. Parce qu'en fait, c'est très étrange dans notre société. Là, Internet a ouvert la porte à tout le monde, aux gentils comme aux méchants, aux débiles mentaux comme aux gens intelligents. Alors, on entend beaucoup parler les crétins.
Vous allez dire parce qu'ils sont plus nombreux.
J'ai l'impression.
Bon alors là, formidable. Insultons la nation.
Voilà. Non, mais j'insulte pas la nation, mais c'est vrai que la plupart du temps, ceux qui écrivent sur Internet sont ceux qui veulent se plaindre, sont ceux qui critiquent, sont ceux qui insultent, et rarement sont ceux qui font des compliments, etc. Il y en a, bien sûr, évidemment, mais la plupart du temps, oui, c'est des gens qui ont la haine, qui sont en colère, qui sont un peu bêtes, je m'en fous, j'assume. Et donc, avant, ils étaient dans les bars à dire des conneries et à boire leurs coups et à dire des bêtises sur la société, etc. Maintenant, ils
se retweetent entre eux.
Ouais, ils peuvent l'écrire, donc ça tire un peu la société vers le bas, je trouve, parfois.
Alors, on va justement
quitter ça. C'est un tyran qui vous parle. Je vais interdire à tout le monde de parler sur Internet.
Justement, partons vers la fantaisie. Elise Moon, réalisez le quatrième volet des aventures de Ducobu, le cancre qui a le plus de fans en France et qui réunit absolument toutes les générations au cinéma, s'est plongé effectivement dans la fantaisie au premier degré, la fantaisie de l'enfance, un peu comme retrouver le rire originel. 4 films autour d'un même personnage, c'est hyper rare. Oui. Patrick Chirac dans Camping n'a vécu 3. Que jusqu'au numéro 3. Voilà,
oui,
votre ami Franck
raison.
Dubos qui l'a déclaré qu'il n'y aurait pas de Camping 4. Or, Ducobu Président, qui sort en salle le 13 juillet, est le numéro 4. C'est parce qu'il est l'anti-héros régressif absolu que les Français l'adorent.
Oui, certainement, parce que les enfants sont très 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 attachés à Ducobu. D'abord, avec les BD, elles ont une vingtaine d'années. Et puis, moi qui fais les avant-premières dans toute la France, vous ne pouvez pas imaginer comment les enfants aiment ce personnage. Alors, on peut fantasmer sur Superman, mais aussi on peut fantasmer sur Ducobu parce que parce qu'il est un peu loser quand même, c'est un tricheur. Donc
et qu'on a moins de chances d'avoir Superman installé, assis dans la classe, alors des Ducobu, il y en a plein.
Voilà, vous avez tout compris. Oui, on a fait 4 volets, mais il y a aussi une chose, c'est que ce qui nous aide à continuer, c'est aussi le succès.
Bien sûr.
Si le 4e volet Ducobu président, ce qui m'étonnerait, a autant de succès que Macron lors de ses élections, on risque pas d'en faire un 5e.
Mais
s'il
a autant de succès que le 3e Ducobu, il y aura un 5e Ducobu, c'est ça ?
Pourquoi pas ? Enfin, après, il faudra qu'on se creuse la tête pour renouveler le genre. Je sais pas, mais on verra.
En tout cas,
ça dépend du succès.
Parlons de ce numéro 4. Cette fois-ci, Ducobu veut se faire élire président des élèves de Saint-Potage. Puis c'est un peu comme une allégorie du monde réel. Pour se faire élire, faut dire ce que ceux qui vont voter veulent entendre. Donc, ne plus travailler et juste se divertir.
Oui.
Il paraît que l'idée vous est venue de ces écoles expérimentales bien réelles, où on pousse l'expérience jusqu'à la caricature pour que l'enfant s'épanouisse sans aucune contrainte.
Ouais, exactement. C'est les écoles Montessori, etc. Alors, j'y connais pas grand-chose, moi, mais je préfère ne pas y connaître grand-chose. Je préfère avoir un regard caricatural là-dessus. Donc, avec les scénaristes, Guy Laurent et Marc de Chauvron, d'abord, c'était un mélange, en fait. On voulait parler des élections, parce qu'on était censé sortir le film en avril lors des élections présidentielles. Donc on voulait parler de ça. On voulait parler aussi des nouvelles méthodes d'éducation. Et puis moi, je voulais mettre un nouveau personnage de fan un peu bizarre.
Hystérique et inquiétante.
Et on, vous savez, on peut écrire un film ou un sketch ou un roman sur deux ou trois idées. Hein.
Bien sûr. On brode. Et là, vous avez mixé et ça marche.
Ouais, ça marche super bien. Moi, je trouve que ce quatrième volet, d'après ce que j'entends, hein, on peut toujours se tromper, mais est le meilleur des quatre. Il y a une morale. C'est-à-dire qu'à la fin, sans être poujadiste ou réactionnaire, mais pour réussir, il faut travailler. Voilà.
Mais alors, en deux ans, Elise Moon, un ado, ça change énormément. Oui. Donc, il a fallu partir à la recherche du nouveau du Cobu, avec toutes les caractéristiques du héros de la BD et des films précédents. Il paraît que vous avez reçu des milliers de candidatures.
Oui, mais 2000.
Comment on sélectionne le héros dans un casting aussi gigantesque?
C'est très simple et c'est très compliqué. D'abord, il nous envoie des photos. Donc, je regarde les photos, je choisis sur photo. Ceux que j'ai sélectionnés, on leur envoie une scène à apprendre par cœur et on leur dit de nous envoyer une vidéo d'eux. Soit ils se filment, soit ils sont filmés par les parents ou par un tiers et ils font la scène. Souvent, les parents jouent tellement mal, c'est une catastrophe. Et quand je vois les vidéos, je sélectionne sur vidéo.
Ouais.
Ceux que je sélectionne, je les vois. Et quand je les vois, eh ben, soit je suis déçu, soit je suis agréablement surpris.
Et avec Gabin Tomasino, ça a été l'évidence.
C'est génial.
Mais alors, ce qui est quand même
quand
étonnant,
arriver...
c'est que ce jeune garçon de 12 ans, qui dans la réalité a un an d'avance au collège, dans la vie vraie, puisqu'il est en quatrième à l'âge de 12 ans, bravo, et vous allez lui faire incarner le plus grand cancre de France.
Bah oui, mais pour être...
Pour bien jouer les idiots, il faut être très malin.
Bah oui.
Voilà.
Non, c'est un super petit acteur. Il a un sacré caractère. Il m'en a fait baver sur le tournage. Mais
c'est-à-dire
oui, parce que c'est un enfant. Parce que quand il était fatigué, il était chiant. Il n'était pas concentré. Il emmerdait les autres. Il voulait manger. Il voulait dormir. Il faisait du bruit. Il tapait sur la table, etc. Donc, il fallait le gérer.
Mais le résultat
est génial.
À l'image.
Franchement, il est formidable. Quand je l'ai vu arriver...
Et puis, il a un nom d'acteur. C'est
Gabin,
magnifique de s'appeler Gabin.
D'acteur. Ouais, ouais. Ah bah oui, ça. Il est béni des dieux.
Du Cobu président sort en salle le 13 juillet prochain. Mais on va en reparler parce que vous avez un casting 5 étoiles autour de Gabin avec l'épatant Loïc Legendre qui joue son père, Frédéric Bell qui joue sa mère, Gérard Jugnot qui prend plaisir à rejouer Monsieur qui triche. Et puis vous, Elise Moon, qui êtes au four et au moulin.
Et un méchant aussi, c'est la surprise.
Oui, oui, oui. On ne dit pas.
C'est la surprise.
Allez,
Harry Habitant, qui fait le méchant du film et qui le fait très bien. Qui on a d'autre encore dans ce magnifique film? Émilie Caen, qui fait Mademoiselle Rateau, donc ma femme. On a une
qui
apparition.
Qui était dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?
Exactement.
Comme Frédéric Bell.
Exactement. On a une apparition de mon ami Franck Dubosc, qui amuse beaucoup, beaucoup les gens. On a un sacré casting. On a une petite qui s'appelle Marguerite qui fait Denise, la fan de Ducobu.
Très, très, très inquiétante.
Très inquiétante, mais qui est géniale. Qui est aussi inquiétante qu'elle est gentille dans la vie. On a la petite Jeanne qui fait Karine, qui dit toujours c'est clair. On a Adèle aussi qui fait Mademoiselle Gratin. Franchement, un bon film, ça commence déjà par un bon casting.
Et celui-là, il est réussi.
Bon. Ouais, ouais. Et puis, je laisse rien passer.
Elise Moon. Quand sur scène, vous évoquez votre maman, vous dites « J'avais 11 ans quand tu es morte, maman, alors je suis devenue comique. » Ça résume bien votre réalité, l'humour pour conjurer le désespoir, c'est ça ?
Oui, dans le sketch, j'amène une urne funéraire et je lui raconte ma vie. Et je lui dis voilà, à 10 ans, j'étais vétérinaire, à 11 ans, j'étais astronaute. Enfin bref, et à 11 ans, t'es morte, donc je suis devenue comique. Et je lui dis, je sais pas si vous recevez si vous avez la télé ou si vous recevez le câble là où vous êtes, mais je passe encore chez Michel Drucker. Je dis, ah oui, il est encore là, lui. Et je lui raconte ma vie. Et c'est inspiré d'une série qui s'appelle This Is Us. Je sais pas si vous connaissez cette série. Et à un moment, il y a une séquence où il y a l'urne du père qui est posée sur la cheminée. Et le gars qui est un peu gros veut épouser sa fille et il demande sa main à l'urne. Il s'adresse à l'urne en disant « Voilà, j'aime votre fille, est-ce que je peux la prendre pour épouse, etc. » J'ai trouvé l'idée tellement géniale que je m'en suis inspirée. J'avais déjà écrit le sketch, mais Voilà.
Alors, je continue de dérouler les souvenirs, Elise Moon. En fait, votre maman, en deux semaines, elle a été emportée par une maladie fulgurante et votre papa n'était absolument pas préparé à élever seul trois enfants. Elle a été... Comment l'éducation qu'il vous a donnée alors ? Comme il a pu, en bricolant, elle a été un petit peu hasardeuse, elle a été un peu chaotique. Comment il s'est débrouillé,
oui,
votre père ?
Pas chaotique, mais hasardeuse. Heureusement qu'il avait ses sœurs, donc mes tantes, pour l'aider, mais il s'est retrouvé avec trois enfants.
Très jeune.
11 ans, 10 ans,
vous
et ma petite sœur, 5 ans. J'étais l'aînée. Donc, c'était pas évident. Non, non. C'est pas évident. Je me rappelle d'un jour, il nous avait fait... ce qu'il croyait être une entrecôte ou je sais pas quoi, une escalope. Et en fait, c'était... il voulait nous faire une escalope panée, mais en fait, il a mis du sucre glace à la place de la farine. Enfin bon, il faisait un peu n'importe quoi. Mais c'est normal, il tâtonnait. Mais il nous a bien élevés quand même.
Petite sœur de 5 ans.
Oui, donc c'est petite sœur. Donc Anne-Judith, ma sœur maintenant,
voilà,
qui est maman de 4 enfants.
Bah oui, c'est cruel.
Bon, c'est cruel, mais on dit que c'est la vie.
Quel métier il exerçait, votre papa ?
Il travaillait la poste.
Et il n'a jamais refait sa vie ?
Non. Et je crois qu'il était un séducteur avec ses beaux yeux bleus et sa belle tête, puisqu'il était beau. Donc on a vu passer quelques femmes, mais c'était assez discret. Pas assez discret quand même, parce que les enfants, ils voient tout. Donc quand il y a des dames qui téléphonaient à la maison, comme on était jaloux, nous, on leur raccrochait au nez.
Mais en tout cas, ça veut dire que s'il n'a pas refait sa vie, votre père, c'est qu'il a décidé que rien ne devait changer pour ses enfants.
Oui.
Se serait-il sacrifié pour vous ?
Probablement. Je pense que le pauvre, il l'a regretté, parce que je me souviens de son vivant. Il me disait souvent, il ne faut pas finir sa vie seul. Ne sois pas seul, Élie, parce que c'est trop triste. Je pense qu'à la fin de sa vie, il s'est pas mal ennuyé, car il était seul.
Élise Moon, les adultes, et sans doute j'imagine en premier votre père, ont refusé que vous alliez à l'enterrement de votre maman. Il paraît que longtemps vous en avez conçu une colère immense. Est-ce que maintenant vous comprenez cette décision prise par lui ?
Bah oui, je la comprends. On était en 74, vous vous rendez compte, c'est des temps préhistoriques. Donc à l'époque, il n'y avait pas de psychologie enfantine. On se disait que, vu que c'était triste, il ne fallait pas qu'un enfant soit triste. Sauf que c'est une connerie, en fait. C'est comme les secrets qu'on garde pour protéger, entre guillemets, les gens, mais qui les massacrent, au fond. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai toujours fait confiance à l'intelligence des enfants. Je pense qu'ils ont une intelligence affective beaucoup plus importante que celle des adultes. C'est pour ça qu'ils auraient dû nous inviter à assister à l'enterrement, pour qu'on prenne conscience de ça, de son départ, et qu'on puisse se reconstruire après. Ce qui n'a pas été le cas.
Parce que vous la cherchiez partout, votre maman, c'est
oui,
ça ?
Oui, un petit peu, oui. Mais ça fait de nous des artistes, bon. Des gens un peu boiteux, mais c'est
voilà.
Pas...
À l'adolescence, Elise Moon, vous avez eu, paraît-il, votre période punk. Mais alors, comme votre maman était prof de français, vous n'avez jamais cessé de lire Balzac, Tolstoï, le philosophe Alain, vous dévoriez des bouquins en permanence. Et vous écriviez aussi... Combien d'humoristes célèbres écrivaient ados, par exemple, des poèmes ? Vous ne devez pas être nombreux.
Non, pas nombreux. J'ai même écrit il n'y a pas longtemps un roman, peut-être que je viendrai vous en parler, ça sortira en octobre chez Robert Laffont, un roman d'amour, très inspiré d'un des nombreux livres que j'ai lus, en même temps de L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera et d'un livre qui s'appelle Toi et moi de Paul Géraldi, qui raconte l'histoire d'un amour. Alors, c'est ce que j'ai fait du début jusqu'à la fin. Et c'est le fruit de mes nombreuses lectures et de ma passion pour
La langue.
Pour la langue française.
Et le livre sort quand, dites-vous ?
Le 6 octobre chez Robert Laffont.
Et le titre ?
Ça s'appellera « Compter jusqu'à toi ».«
Compter jusqu'à toi ».
Voilà.
D'ailleurs, puisqu'on parle d'écriture, à l'âge de 17 ans, vous avez publié à compte d'auteur deux recueils de poésie.
Le Poémoire et Plaisantriste. J'adorais écrire.
Avec toujours le goût du jeu de mots, comme pour s'excuser de quelque chose de peut-être trop lyrique, c'est ça ?
Oui, on s'arrange toujours pour se planquer, pour être un peu en contrôle. On a du mal tous à lâcher prise, vous savez bien. Donc on se sert des mots, on se sert de l'humour, on se sert de masques, d'une fausse moustache. J'en sais rien, c'est comme ça.
Mais avec des recueils de poèmes, vous étiez quand même très très loin de ce qui allait vous faire connaître.
Ah oui, oui, mais c'est pas grave. Un artiste, moi je suis pas unitâche. Je fais plein de choses, je m'exprime dans mon jardin, je m'exprime en musique, en poésie, en littérature, en humour, au cinéma. Mais c'est ça qui est génial.
Alors, je continue de dérouler les souvenirs. Je voudrais savoir ce qui s'est passé pour que soudain, Elise Moon, le jeune homme de 17 ans, introverti et littéraire que vous étiez, se pique de théâtre, veuille monter sur scène et pour cela, prenne des cours de théâtre au Théâtre de l'Atelier, installé entre Valéria Bruni-Tedeschi et Annie Gregorio. Vous vouliez votre part de lumière ?
Oui, et puis c'est la seule façon que j'avais trouvé de m'exprimer. C'est la seule façon que j'avais trouvé de séduire les filles. Je me disais que ma virilité, entre guillemets, ça pouvait être mon talent. Et c'était pas mal d'être sur une estrade et que les filles me regardent d'en bas. Ça m'arrangeait, en fait. Parce que tout seul, je pense que j'aurais pas réussi à les séduire. Mais avec un petit bout de talent, un peu d'humour, je me disais, c'est un aveu de faiblesse. Ça veut dire que en tant que moi-même, je pensais pas avoir les armes pour les séduire.
Vous pensiez que la partie était perdue. Ouais, mais là, perdu. Avec mais là, voilà, en grimpant sur
je
une scène.
Je le pense encore.
Mais alors, quand en 83, vous jouiez sur scène à tout juste 20 ans avec Muriel Robin, Les Folies amoureuses de Jean-François Reignard, comédie en trois actes, écrite en 1704, donc sous le règne Louis XIV, on peut pas dire que vous amorciez une carrière de comique, ni Muriel d'ailleurs. Alors concrètement, quand et comment vous êtes-vous retrouvé dans la peau d'un humoriste ?
Alors non, détrompez-vous, parce que cette pièce, en fait, j'avais pas 20 ans, j'avais 19 ans, mais bon, peu importe.
Alors 19 ans,
s'en fout.
C'est encore mieux.
Non, c'était une pièce comique. C'était une pièce comique,
Il
était contemporain de Molière. Et
écrite
moi, je
en
faisais
1704.
Un valet. Oui, ben c'est sûr que c'est pas très moderne. Non, c'est quand j'ai rencontré Dieudonné. Dieudonné Mbala. Quand on s'est rencontrés, là, on a commencé à déconner ensemble à tel point qu'on a commencé à écrire des sketchs. Et c'est là que tout a démarré. Et ça a été super vite. Hein. On n'a jamais galéré. On a rempli le Café de la Gare en quelques mois. Et on a rempli toutes les salles qu'on faisait. Et les gens nous.
Vous êtes rencontrés où avec Dieudonné ?
Alors chez un ami à Vissou, exactement, chez un pote qui s'appelle Gilles Schnebelin et qui était dans la classe de Dieudonné. Et il m'a dit dans ma classe, il y a un mec super drôle. Il faut que je te le présente parce que vraiment, vous allez vous adorer. Et je me souviens très très bien de la première rencontre avec Dieudonné à Vissou. Il était écroulé sur un canapé. Je lui ai dit bonjour, puis on a commencé à déconner. Et ça a été un coup de foudre amical. Jamais. Enfin,
alors,
si, ça s'est arrêté.
Oui, si, voilà, ça s'est arrêté justement. Parce qu'à l'époque de vos premiers spectacles, avec Dieudonné, bon, la religion, les origines, la couleur de peau, les mœurs, la politique n'étaient que prétexte à rire.
Bah, oui.
Et effectivement, on connaît la suite. Vous vous êtes séparés en 97, parce que vous étiez complètement désemparés devant la radicalisation de Dieudonné.
Ouais.
Vous dites que aujourd'hui, Dieudonné, il a une sorte de vie parallèle, hors de tous les cadres existants.
Oui.
Par exemple, il joue dans des bus.
Ouais, c'est bizarre. Je ne comprends pas le plaisir qu'il éprouve. Mais peut-être qu'il ne peut pas faire autrement. Bah, écoutez, je ne sais pas, on se parle beaucoup en ce moment. Bon, il a choisi une voie différente de la mienne. Moi, à ses yeux, je suis une sorte de fonctionnaire de l'humour, on va dire. Lui, il a été dans des... Il a pris des chemins de traverse hallucinants. Il a rencontré des gens monstrueux, des serial killers, des meurtriers, des gens qui sont racistes. Enfin, il a été vers un monde interlope, bizarre. Et je pense qu'il s'en est nourri pour son humour. Mais ce n'est pas le chemin que j'aurais choisi, moi.
Alors, je me souviens très très bien de cette critique du Nouvel Observateur concernant le film de Philippe Collin, Aux abois, dans lequel, en 2005, vous incarniez l'assassin en cavale d'un usurier. Vous étiez effectivement terrifiant de maîtrise, énigmatique à souhait. Le Monde, Télérama, Libé, même les cahiers du cinéma étaient dithyrambiques. Bon, chaque humoriste rêve de son Ciao Pantin. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de suite ?
Mais ça, malheureusement, il faut demander aux gens du cinéma. Quand je demande à mon agent, qui est Alexandra Chamis, je lui dis, Alex, comment ça se fait que je ne fais pas de films différents de ceux que je fais maintenant ? Elle me dit, mais en fait, tu as fait trop de personnages et Les réalisateurs, je suis un peu gênée parce que je ne peux pas parler à leur place et je n'ai pas envie de parler à leur place, mais visiblement, ils n'arrivent pas à fantasmer sur moi comme mec normal, avec ma tête normale.
Et pourtant, c'est ce que vous étiez dans Aux Abois.
Oui, j'étais, mais je vois mal un Jacques Audiard penser à moi pour un rôle, alors qu'il devrait, ce serait surprenant, ce serait étonnant. Et je pense que chez tous les humoristes, il y a une épaisseur et une tragédie.
On peut faire. Qu'il faut savoir découvrir en grattant
ouais,
un peu.
En grattant. Bourvil était extrêmement émouvant dans le Cercle Rouge.
Ou dans Fortuna.
Coluche. Fernandel aussi. Évidemment, je ne me compare pas à ces gens-là, mais il y a quelque chose de funeste. Ça aurait été fantastique dans un rôle noir. Donc j'adorerais faire ça, ouais. Je lance un appel, mais j'y crois plus trop, quoi.
Mais une carrière au cinéma, Elise Moon, ça dépend de beaucoup, effectivement, de paramètres, plus qu'une carrière sur scène, de choix faits par les autres, à commencer par, justement, les financiers, les producteurs, les distributeurs, ils sont très très nombreux à imposer leur loi.
Les distributeurs, oui, les chaînes de télé, souvent elles décident que vous êtes un naze, un ringard ou un has-been, j'en sais rien, ou alors que vous êtes...
Vampirisent le cinéma aujourd'hui, les chaînes de télé.
Oui, mais en même temps, c'est normal, elles donnent de l'argent, elles font vivre le cinéma. Donc, si vous avez la chance d'avoir la carte, je ne sais pas, je pense à des comédiens, et j'ai aucune aigreur, mais comme Jonathan Cohen, qui fait beaucoup de cinéma, ou Alban Ivanov. Alors, vous faites beaucoup de cinéma, vous êtes dans tous les projets. Parfois il y a des bides, parfois il y a des succès, mais c'est une question de confiance. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis le pied dedans, et ben vous pouvez faire plusieurs films. Les chaînes de télé vous font confiance, mais on ne sait pas pourquoi, en fait. Pour l'instant, je n'ai pas l'air de faire partie de ces gens-là, malgré le fait que j'ai fait beaucoup de cinéma, évidemment. Et puis j'ai réalisé deux films, dont le deuxième sera un gros succès, je l'espère. Mais est-ce que ça changera quelque chose dans l'esprit des gens du cinéma? J'en sais rien.
Alors,
j'en doute un peu.
J'évoquais ce film,
Aux Abois. On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Qui a eu donc des critiques absolument dithyrambiques
de la part de tous
les médias les plus exigeants. Oui. 6 ans plus tôt, c'est-à-dire en 99, Elise Moon, vous aviez tenu le premier rôle d'un thriller américain, alors ça c'est très très étonnant, aux côtés de Burt Reynolds, vous jouiez un mercenaire de l'info, prêt à tout pour traquer le scoop. Le film a pour titre Stringer, vous l'avez tourné à New York, et à l'époque...
C'est l'histoire d'un string.
À l'époque, vous en attendiez beaucoup de ce film ou pas?
Comment vous êtes retrouvé
dans une production américaine avec Burt Reynolds?
Tout simplement passé les essais, et le réalisateur était franco-allemand, et...
Vous allez dire qu'il n'avait pas d'a priori.
Ouais, voilà, il a pris le risque. J'ai tourné il y a 2 ou 3 ans, malheureusement, je ne sais pas ce qu'il est devenu ce film, sous la direction de Isilde Lebesco.
Qui est une excellente réalisatrice.
Voilà, un film d'auteur. J'étais accompagnée de Jeanne Balibar, entre autres. Je ne sais pas ce qu'il est devenu ce film, mais ceux qui ont vu le montage m'ont dit que j'étais très étonnant dans un rôle assez normal, quoi. Voilà.
Mais alors vous êtes en train de nous dire qu'en même temps, il y a des films qui se tournent avec de superbes castings et qui ne sont jamais distribués.
Alors celui-ci, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que j'appelle Isilde Lebesco, mais je pense qu'on n'a pas le temps de l'appeler en direct. j'espère qu'il verra le jour.
Donc, on parlait de la comédie américaine avec Burt Reynolds, tournée à New York. La même année, vous avez tourné avec Johnny et Sandrine Kiberlin dans le film de Laetitia.
Un petit rôle. Ouais.
Dans le film de Laetitia Masson, catégorié comme un drame. Et ensuite, vous avez repris définitivement le chemin de la comédie, comme si c'était exclusivement votre place.
Bah oui, mais vous savez, quand le dieu de l'humour vous a choisi, c'est quand même dommage. Quand on a le talent, entre guillemets, de faire rire, c'est rare hein, quand même.
Mais alors, pourquoi avez-vous refusé de tourner dans La vérité si je mens, Elise Moon?
À l'époque, je me suis trompé, mais Guy Bedos avait dit non, Yvon Attal avait dit non, j'étais pas le seul à avoir dit non.
Oui.
Mais j'ai dit non aussi à d'autres films qui ont fait des flops, hein, donc on peut se tromper, on peut avoir raison, je sais pas.
Qu'est-ce que vous ne sentiez pas bien le synopsis de La vérité si je mens?
Je faisais un spectacle avec Dieudo et je devais partir en vacances en Corse et je crois que j'ai choisi les vacances en Corse. C'est tout simplement ça.
T'as remarqué, ça, voilà. Ça aurait été digne de José Garcia ouais. dans le film,
ouais,
justement.
Ouais. José, on venait de tourner « Tout doit disparaître » avec José et Ophélie Winter.
Ouais.
Et José m'en avait parlé de La vérité si je mens, et moi j'hésitais entre mes vacances et ça, puis j'ai choisi les vacances. Voilà.
Finalement, au cinéma, en dehors des responsabilités de réalisateur, quelle est l'expérience la plus passionnante, la plus euphorisante que vous ayez vécue au cinéma?
Ah, je sais pas pourquoi, mais je pense à des scènes de fou rire.
Ouais.
J'en ai deux auxquelles je pense comme ça. Dans Les Trois Frères, on avait une scène avec Les Inconnus. Où on n'a pas pu faire la scène tellement on se marrait, on pleurait de rire. Et puis une autre séquence d'un téléfilm avec Gérard Lanvin où on ne pouvait pas se regarder sans exploser de rire. Voilà, c'est des choses auxquelles je pense.
Mais ça, il n'y a rien qui peut... je ne sais pas, on repart dans sa loge, on revient un quart d'heure après.
Fou, hein. Et moi, on
rien
a le droit...
ne fonctionne
non.
pour parvenir à tourner la scène.
On en a eu aussi hein, sur du Cobu Président, on en a eu avec Franck Dubosc.
Ouais.
Mais ça, c'est parce que lui et moi, on a tellement de complicité. On a beaucoup d'amitié. Un regard, une intonation et on tombe par terre. Quoi. Donc c'est comme ça, mais c'est très agréable.
Bon, je parle cinéma avec un amoureux fou de musique.
Oui.
Élie Sébaud, vous avez déjà 3 albums à votre actif et votre sensibilité musicale, elle va de Ravel à Carlos Jobim, de Bill Evans à Wagner. D'ailleurs, entre jazz et bossa nova, votre passion pour Wagner, elle vous emmène jusqu'au festival de Bayreuth. Vous aimez vraiment régulièrement vous rendre.
Ouais.
Vous chantez avec une voix très délicate, une voix subtile. Pourquoi dites-vous, comme pour vous excuser, mais vous savez, moi je ne suis pas un musicien. Bah si, vous êtes musicien.
C'est la vérité, je ne suis pas musicien, mais j'aime la musique au point de vous faire concurrence, d'ailleurs, puisque je fais des chroniques sur France Musique tous les mercredis matin. Mais bon, je vais arrêter là. Mais où je parle beaucoup de musique, donc j'ai vraiment une grande passion pour ça, et j'espère une petite culture aussi. Je sais reconnaître les musiques qui me conviennent. Malheureusement, je ne suis que interprète et auteur, mais je ne sais pas comment font les mecs pour se mettre devant
pour
un
composer.
Piano ou pour prendre une guitare et composer sur des paroles. Ça me semble miraculeux de faire ça. Donc j'ai beaucoup d'admiration
pourquoi
pour eux et beaucoup
de frustration.
Pourquoi
ne vous êtes-vous jamais décidé à apprendre?
J'ai un peu
parce
appris,
que si vous avez un sens mélodique,
oui.
Après tout ça, ça s'organise, on apprend le solfège.
J'ai appris un peu à faire de la clarinette, mais c'est compliqué de chanter et de jouer de la clarinette en même temps. Non, et j'avoue que j'ai été un peu paresseux sur ce coup-là. Oui, j'aurais pu apprendre, mais on...
Rien n'est perdu. Hein.
Vous croyez?
Mais oui. Vous aimez trop la
dans
musique.
Dans les 30 ans qui me restent à vivre,
non,
vous
non,
croyez
mais
que je
vous
peux
allez
apprendre.
Vous révéler compositeur de musique de film.
Oui,
vous allez
sûr.
Voir, bientôt vous dirigerez des grands orchestres. Vous
comme
écrirez
Vladimir Cosma,
comme Vladimir
Georges
Cosma,
Georges
voilà.
Delerue,
vous serez,
Bernard Herrmann.
Voilà.
Je pourrais vous en citer plein.
Alors, je voudrais savoir, quand vous allez au festival de Bayreuth, on reconnaît Élie Sémoun dans la foule ou pas du
oui.
tout
oui,
comment
oui,
réagissent
mais
les
alors,
gens
ils sont
surpris.
Les gens, ils sont là, oh, regarde Élie Kakou. Non, oui, ils sont très surpris. Ils n'imaginent pas qu'un mec comme moi... Alors, vous savez, dans l'esprit des gens, un humoriste, c'est quand même un bouffon, un teubé, quoi, qui fait marrer les gens. L'humour, c'est pas pris au sérieux. Hein.
J'aime beaucoup votre formule.
Bah oui, c'est logique. Donc, ces gens-là font partie d'une...
D'une élite.
D'une élite, d'une secte.
D'un style. Voilà.
D'un style, et comprennent pas trop qu'un gars comme moi puisse venir, juif de surcroît. Mais c'est pas grave, un sourire et on est accepté. Et on discute, on a une passion commune de cette musique sublime. Et si je peux y retourner en août au festival de Bayreuth, j'irai. Parce que c'est une musique fabuleuse, envoûtante, hypnotisante.
Festival qui a été créé par Wagner.
Ouais, exactement.
Voilà.
Exactement.
Ouais.
Et j'espère qu'il y aura le festival cette année et que je pourrai y aller.
En fait, Élie Sébaud, vous aimez tellement la musique que vous ne travaillez jamais en musique. Justement
non.
parce qu'elle vous absorberait
impossible.
Trop.
Ouais. Comment
ce sont
vous
les
savez
vrais
ça
amoureux de la musique qui ne peuvent pas bosser
non,
en
ouais,
musique.
Non, c'est impossible.
Bien sûr.
Mon esprit, quand j'ai écrit mon roman, là, c'était le matin ou la nuit, on va dire. Mais jamais, jamais en musique. Impossible. Parce que mon esprit gambaderait vers notes de musique et cavalerait avec les notes. Je chevaucherais les notes. Mais je serais absolument
pas fantastique. Voilà, on y revient.
Je serais pas concentrée sur mon écriture, ça c'est sûr.
Donc vous êtes fou de musique.
J'aime trop la musique.
Mais vous êtes également fou de botanique.
Oui, alors j'ai aussi j'ai la chance d'avoir un jardin et j'ai écrit un livre qui s'appelle Pelouse interdite, qui est sorti chez Ulmer, mais je crois que les exemplaires, c'est épuisé.
Il faut recommander.
Voilà. J'en sais rien. Et donc, oui, j'ai une grande passion pour ça.
D'ailleurs,
mon jardin
vous n'avez
manque
pas,
quand je suis pas là.
Vous n'avez pas une maison avec un jardin, vous avez un jardin avec une maison. Mais vous êtes un jardinier patient ou impatient ?
Je suis impatient, mais je suis obligé d'être patient. La nature ne supporte pas l'impatience.
Elise Moon, oui. Généralement, ça fait assez peur aux gens de se retrouver face à eux-mêmes dans la solitude d'un lieu de prière. À vous, ça ne fait pas peur du tout. Vous êtes presque un habitué chaque été des retraites dans l'abbaye de Senanque, à Gordes, chez les moines cisterciens. La première fois que vous avez fait la démarche d'une retraite monastique de plusieurs jours, c'était sur quel élan, quel besoin ?
J'avais une rupture sentimentale. Et j'avais besoin de me retrouver, de réfléchir aux erreurs que j'avais commises. Et puis j'ai une copine qui m'avait dit qu'à Senanque, donc comme vous l'avez si bien dit, près de Gordes, dans l'Luberon, il y a une abbaye, mais les gens qui nous écoutent doivent la connaître.
Et les prêtres, au milieu du champ de lavande, voilà. C'est d'une beauté inouïe.
Incroyable. Vous connaissez ?
Oui.
Ah, très bien. Et donc, vous pouvez, pour une somme modique, je crois que c'est 10 euros ou 15 euros, j'en sais rien, vous pouvez passer autant de temps que vous voulez dans une chambre monastique. Il n'y a strictement rien. Il
n'y
a pas Internet. Voilà, une cellule.
Mais avec la plus belle vue du monde.
La plus belle vue du monde, vous avez raison. Et avec des prêtres fantastiques. Et vous mangez avec eux. Vous assistez aux prières si vous avez envie. Vous allez vous balader aux alentours. Et c'est ce que j'ai fait.
Vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher là, presque.
Presque, oui.
Enfin,
presque.
C'est même pas.
En tout cas, c'est une respiration.
Il ne s'agit pas de trouver, mais de se repositionner.
Voilà. Mais vous savez, dans la société là actuelle, qui est vraiment étrange, je crois que les gens sont en recherche de sens. Les bouquins là que moi je trouve parfois que c'est un peu du charlatanisme, mais les bouquins de bien-être 10 leçons pour être heureux, enfin des conneries comme ça cartonne. Je crois que si les gens ont besoin de croire en un dieu, je sais pas quel dieu, le dieu de l'argent, le dieu du bien-être, le dieu du sport, le dieu du yoga, le dieu des bitcoins, j'en sais rien moi, mais ils ont besoin de s'accrocher à quelque chose et je suis pas différent des autres. Donc voilà, j'ai
vous
eu besoin.
Vous avez beaucoup parlé avec les moines cisterciens entre leurs offices.
Oui, bien sûr, je leur ai posé plein de questions. On a beaucoup discuté. Et puis avec notre ami Stéphane Bern, on a récolté de l'argent parce que l'abbaye partait. Enfin, un des murs se fissurait et risquait de s'écrouler. Et donc on a récolté, je crois, 800 000 euros et on a sauvé l'abbaye. D'une certaine façon. Enfin, les donateurs. Mais on l'a mis en lumière, en tout cas. Donc, ils sont très reconnaissants de ça. Et
c'est
des gens formidables.
Ouais. Alors, les moines cisterciens sont très au fait, Elise Moon, des chaos qui secouent notre monde, au-delà, justement, des murs de leur abbaye.
Oui. Alors, ils ne sortent jamais.
Jamais.
Non. Il y en a un qui n'est pas sorti depuis 18 ans. Mais ils sont au courant de tout. Ils ont Internet, ils reçoivent ils lisent les journaux, etc. Mais leur vie est rythmée par les prières. Il y a cinq prières par jour. Une à 6h du matin, une autre à 8h, une autre à midi, une autre
à... Et les messes, les offices.
Voilà. Oui. C'est fou. C'est incroyable, cette vie.
Vous dites qu'effectivement,
ils passent leur temps à remercier Dieu.
Ils ont Internet. Il paraît que pendant le confinement, les moines cisterciens ont pris de vos nouvelles en vous adressant des mails.
Oui.
C'est
ah oui, on
vous
s'envoie
communiquez
des mails.
Ainsi.
Oui, tout à fait. Pour me raconter l'avancée des travaux, pour me demander des nouvelles. Quand mon papa est mort, ils m'ont gentiment envoyé un mail. Non, ils sont formidables, hein, mais ils ne sont que amour, hein, ces gens-là.
Ils sont catholiques, vous êtes juifs, vous n'avez pas les mêmes rituels, mais vous avez exactement les mêmes questionnements.
Oh, exactement. Et j'ai emmené avec moi un ami, je ne sais pas si je peux citer son nom, mais peu importe. Bon. Bref, et lui, ça n'a pas changé sa vie, mais en tout cas, d'une certaine façon, oui,
Alors, en ce qui concerne les questionnements, on a l'impression, Elise Moon, que en fait, vous vous questionnez de plus en plus sur la fin de l'histoire, alors que les années s'accumulent. Quand je dis la fin de l'histoire, je ne parle pas de la vôtre, je parle toutes les grandes questions essentielles. Vous avez évoqué par exemple votre papa qui n'est plus. Vous avez fait un documentaire absolument magnifique. Qui est passé en télé il n'y a pas très longtemps. Votre père, vous l'avez emmené au Maroc, vous avez voyagé avec lui, vous avez capté ses derniers regards, ses derniers éclats de rire, avant de le voir s'enfoncer dans le flou, on va dire, puisqu'il souffrait d'Alzheimer. Est-ce que d'ailleurs votre père, il se rendait compte qu'il était cerné par des caméras, il les avait acceptées?
Tiens, c'est marrant, j'y ai pensé aujourd'hui. Au début, oui. Les premières minutes, il savait bien, puisqu'on lui mettait un petit micro et qu'il y avait Marjorie Desjardins qui était là et qu'il le filmait. Et puis au bout d'un moment, il l'oubliait complètement. Et puis après, il a vraiment tout oublié. On a arrêté de le filmer quand il est rentré à l'EHPAD à Lyon, parce qu'il n'était plus filmable et parce que nous-mêmes, on ne pouvait plus s'occuper de lui. C'était impossible. Des abrutis m'ont reproché de l'avoir abandonné dans un EHPAD alors que je suis censée être très très riche. Mais évidemment que non. À un moment, on peut plus s'occuper malheureusement de ses parents. On va pas leur faire leur toilette, ni faire prendre des douches, etc. Faut pas rentrer dans les détails. Mais donc on s'est arrêté. Mais son Alzheimer a été un gentil Alzheimer dans le sens où il nous a reconnus jusqu'au bout. Mais par contre, ce putain de confinement où on n'a pas pu le voir pendant un mois et demi, deux mois,
ça a accéléré.
Là, ça l'a tué. Ah ouais, c'est sûr. Ça,
une sorte de descente, quoi.
Complètement.
Il
pente savonneuse. Mais il y en a plein. Il y a plein de personnes âgées qui sont mortes, pas du Covid, mais de solitude. Mm-hmm. Ils ont cru que
qu'on les abandonnait.
Voilà.
Du manque de connexion, de tendresse.
Exactement. Et on avait beau lui expliquer, t'inquiète pas, c'est bientôt fini, blablabla. Il ne comprenait pas, au fond.
Elise Moon, alors parlons des projets. Le 13 juillet, on l'a dit,
il y en a plein.
Sort en salle justement. J'attends que vous nous les révéliez parce que on sait que Duc Aubu Président sort en salle. C'est le quatrième volet que vous avez réalisé, donc des aventures de ce cancre. Mais alors les autres projets au cinéma?
Au cinéma, il y en a pas trop. C'est juste des projets d'écriture.
Parce que, par exemple, il semblerait que... Franck Dubosc et vous
On tourne autour des petites annonces, mais c'est compliqué de trouver. Mais j'ai trouvé une autre idée, donc on va travailler là-dessus. Après, j'ai un livre, donc le fameux livre roman d'amour qui va sortir au mois d'octobre chez Robert Laffont. Je vais faire du théâtre. Ah oui, je vais finir le spectacle aux Folies Bergères le 6 et 7 décembre. Je vais dire adieu à ce spectacle.
Et ses monstres.
Et ses monstres, voilà. Donc, si vous êtes parisien ou banlieusard, prenez vos places parce que ce sera la dernière.
Alors, vous nous redonnez les dates?
6 et 7 décembre aux Folies Bergères.
Ouais.
Et après, je vais faire du théâtre, figurez-vous, avec Julie Debonat. Maintenant, j'ai le droit d'en parler.
Ah Julie Debonat qui a été une des héroïnes, par exemple, du Bazar de la Charité sur TF1, puis ensuite d'énormément de fiction et de prime, et qui a adoré
de succès,
des téléspectateurs.
Donc on va faire un couple, tous les deux, et dans une pièce qui va s'appeler Suite Royale, qu'on va jouer au Théâtre de la Madeleine, mi-janvier, qui a été coécrite par Judith Elmaleh, la sœur de
Gad,
et Adrien Raca,
qui
avait écrit L'Invitation pour Gad à l'époque. Et voilà.
Ah oui, c'est du beau monde.
Mise en scène, Bernard Murat, s'il vous plaît.
Non, oh que c'est chic.
Voilà, très chic.
Non, mais attendez,
Royal,
tout ça.
Suite Royale.
Suite Royale. Voilà. Bon, alors, c'est drôle parce que, en préparant cette émission, je suis tombée sur une de vos déclarations disant que, non, on ne me verra pas dans Mask Singer. Vous avez expliqué avec humour, je ne suis pas encore assez ringard pour ça.
ringard, c'est un peu méchant parce que Pierre Palmade l'a fait.
Mais justement, comment avez-vous réagi quand vous l'avez vu enseveli dans sa combinaison
de cosmonaute? Je me suis dit qu'il avait besoin d'argent.
Et soudain, retirer le casque. Vous êtes dit...
Je me suis dit, il a besoin d'argent. Alors quand j'aurai besoin d'argent, je le ferai. Non, mais, honnêtement, je ne peux pas me plaindre. Je ne vais pas me plaindre de ne pas faire assez de cinéma et faire Mask Singer le lendemain. Ce serait de ma faute.
Mais bien sûr.
On ne peut pas faire rêver les gens au cinéma être un, il faut garder une part de mystère, il faut pas se brader.
Quoi, le théâtre, vous avez connu, vous avez joué de nombreuses fois au théâtre.
Oui.
Mais la dernière fois, vous n'aviez pas...
Le placard. C'est le placard de Francis Weber, où je faisais Pignon.
Oui.
François Pignon, et c'était une expérience géniale. Mais là, je vais y retourner avec
Julie. Comme le sera la prochaine.
Voilà, j'espère.
Mis en scène par Murat,
ah
formidable.
Ah bah oui, hein, c'est pas mal, hein. C'est chic.
C'est très 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 chic, ouais. Elie Semoun. Bon, alors justement, on parle de scène, le rideau, le public, les lumières. Il y a une petite phrase intrigante que vous, l'homme de scène, j'osais un jour entendu prononcer. C'est la suivante. « Je suis toujours déçu lorsque les lumières se rallument.
» Bon, c'est pas très gentil pour le public. Bah oui, parce que ça voulait dire...
Il est évident qu'on ne parle pas du public,
bien sûr, évidemment.
De la vie.
Mais oui, parce que on est bien dans le noir. On est bien avec les projecteurs dans la gueule, parce qu'on voit pas la réalité. Une lumière qui se rallume, c'est comme quand vous allez en boîte de nuit et que tout d'un coup vous êtes obligé de partir et que les lumières se rallument et qu'on voit des néons dégueulasses,
voilà, dans
on
les
voit
cintres.
De la bière par terre.
Voilà.
C'est moche, quoi.
Voilà, le rêve devient sale.
J'ai toujours préféré le rêve à la réalité, ça c'est sûr.
En attendant, le 13 juillet sort en salle le 4e volet de Ducobu. À très vite, merci.
Merci beaucoup.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.